Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Clémence. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Bonjour.
Donc, tu es illustratrice.
C'est ça.
Tu travailles pour l'édition Jeunesse et la Presse.
Entre autres.
Donc là, je vais me tromper parce que j'ai les anciennes infos. Ton truc, c'est de réaliser des ouvrages documentaires, vrai ?
Ça, c'est vrai.
Autour des dinosaures ?
Autour des dinosaures, ça, ouais.
La nature ?
Ouais.
Les animaux ?
Ouais.
Le spatial, toujours ou pas ?
Ouais, toujours. Bah, c'est une passion que j'ai. C'est pas mon travail. C'est pas ce que je réalise le plus. Mais ouais, c'est une de mes passions aussi. Mais je travaille principalement autour des dinosaures. Et moi, j'aime bien me présenter comme Clémence Dupont, dessinatrice de dinosaures.
Et est-ce que je te pose cette question qu'on te pose tout le temps ? C'est pourquoi les dinosaures ?
Parce que c'est cool ! Non, c'est parce que c'était en gros un de mes sujets d'études de mon diplôme. Et qu'il y a énormément de demandes autour des dinosaures. Et depuis quelques années, il y a une grosse hype des dinosaures. Donc beaucoup de magasins se mettent à faire des motifs dinosaures, beaucoup de livres jeunesse autour des dinosaures. Et même pour m'intéresser à ce qui se passe avant, après les dinosaures, c'est le domaine où il y a le plus de recherches scientifiques qui se font. Donc bon, bah voilà, il y a du travail et moi j'y vais. Et c'est cool, les dinosaures, c'est des grosses bestioles ou des toutes petites bestioles disparues. On a juste des squelettes, faut juste imaginer comment ils vivent, quelle couleur ils ont, comment est-ce qu'ils évoluent entre eux, à quelle plante ils étaient, quel climat ils faisaient, où est-ce qu'ils partaient en vacances, qu'est-ce qu'ils mangeaient. C'est génial.
Et par exemple, j'ai plein de questions là qui me viennent à la tête, en tête, pardon. Mais les dinosaures, ici, il y en avait en Alsace ou pas du tout ?
Ouais, bien sûr. Alors, le temps des dinosaures, on va le diviser en trois grandes parties, Trias, Jurassique et Crétacé. Donc, on a beaucoup de dinosaures en Allemagne, on a beaucoup de dinosaures aussi dans le Jura. En Alsace, le problème, c'est qu'on retrouve très peu de dinosaures parce qu'on se concentre sur les fouilles archéologiques. Donc les humains, donc tout ce qui se passe voilà, dans l'histoire des humains, donc bien après les dinosaures. Donc on ne peut pas creuser aussi loin pour trouver des dinosaures. Donc on en a quelques-uns dans les Vosges, mais c'est des dinosaures du Trias, donc la première période des dinosaures. Donc pas vraiment des dinosaures que nous on connaît. Par contre, il y en a pas mal en Allemagne, il y en a pas mal dans le Jura. Mais non, on n'a pas de dinosaures alsaciens. On faudrait chercher, mais bon, les recherches se concentrent pas dessus.
J'ai entendu dire que le T-Rex, ça vient d'Amérique.
Ouais, le T-Rex est originaire d'Amérique du Nord. Et il a côtoyé ankylosaures et triceratops. Mais on n'a pas de T-Rex en France.
Non. Ça, j'ai été choquée, en fait. Je me suis jamais dit, ah ouais, mais ils viennent de là, etc.
En fait, si. Quand on parle des dinosaures, là, comme pour T-Rex du Crétacé, en fait, les continents ont dérivé. Au début, donc au Trias, les continents formaient ce qu'on appelle la Pangée. C'est un super continent. Donc tout était au même endroit. Et peu à peu, jusqu'au Crétacé, donc sur des millions d'années, les continents se sont séparés. Et on a voilà, des dinosaures qui sont en Amérique du Nord, des dinosaures qui sont en Asie. Et il faut bien se rappeler aussi que le temps des dinosaures, c'est une période... Enfin, c'est un temps extrêmement long, donc on parle de millions d'années. Donc il y a des dinosaures, même s'ils ont vécu au même endroit, mais s'ils ont vécu sur la même période, bah, peut-être qu'ils se sont séparés de millions d'années, donc ils n'ont pas forcément pu se côtoyer. Donc voilà, c'est juste on a énormément d'incertitudes là-dessus. On sait que le T-Rex et le Triceratops ont forcément pu se côtoyer. Par contre, un T-Rex n'a pas pu côtoyer un stégosaure. Voilà, ni même un vélociraptor, parce que les vélociraptors sont originaires d'Asie.
Mmh.
Voilà.
Ah.
Et ouais, Jurassic Park nous a menti, encore une fois.
Et t'as aimé ce film ?
Jurassic Park, bah, c'est l'enfance, voilà, c'est le film. Ah, d'ailleurs, fun fact, je suis née la même année que le film Jurassic Park, voilà. Bah, moi, j'aime bien, je le regarde vraiment très souvent avec une petite tendresse parce que c'est un... Enfin, voilà, c'est un film voilà, qui a aujourd'hui bah, presque 28 ans, donc voilà, c'est un film d'époque, limite. Et en fait, Jurassic Park n'est pas qu'un film des dinosaures. C'est pas un film qui se veut paléontologiquement juste, surtout aujourd'hui. Mais c'est un film de tension, un film d'horreur avec des monstres, voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est aussi un des premiers films qui a mis à l'honneur les dinosaures avec, à l'époque, des recherches scientifiques. Après, ils ont pris les recherches, ils en ont un peu fait ce qu'ils voulaient pour faire justement leur film de monstres. Mais ça reste un des premiers films qui met un T-Rex qui était plutôt bien positionné pour l'époque en scène, qui met des vélociraptors en scène. Bon, après, voilà, ce qu'on reproche aussi beaucoup à ce film et surtout à toute la franchise, c'est qu'ils passent leur temps à se castagner, à se manger les uns entre les autres, alors que, voilà, faut pas oublier que c'était des animaux et qu'ils passaient pas leur temps à se manger. La plupart du temps, ils faisaient la sieste et puis ils chamaillaient, c'est tout, entre eux, mais pas forcément interespèces. Voilà, mais bon, ça reste quand même un très bon film, une très belle franchise.
Comment ça se fait que les dinosaures, ça soit si fame ces temps-ci?
Est-ce qu'il y a eu des budgets débloqués pour ça? Je sais pas, peut-être qu'on a besoin de s'échapper un petit peu de notre monde actuel en rêvant à d'autres choses. Je pense que chaque époque a un petit peu une nostalgie du temps d'avant. Là, en ce moment, on est très sur une vibe 90-2000. Je sais pas si t'as vu ce petit retour du jean d'Aibas là. Perso, j'en suis effrayée. Voilà, donc on a toujours une petite nostalgie des temps d'avant et je pense que bah, les dinosaures, là, ça commence à être pas mal à la mode aussi parce qu'il y a de plus en plus de magasins qui s'y mettent pour des lignes enfants. Il y a de plus en plus d'illustrateurs, d'illustratrices, on ne sait pas lesquels, qui commencent à dessiner beaucoup, beaucoup de dinosaures et qui. Bah, le public s'intéresse, il y a pas mal de jeux, il y a pas mal de choses qui se font autour, pas mal de goodies et je pense que c'est ce qui intéresse les gens aussi.
Oui,
Ouais.
c'est un peu. Les gens ils font des dinosaures, après ils se rendent compte que ça marche, qu'ils aiment, donc ça
Bah,
grossit, ça grossit.
et je pense qu'aussi bah, les gens de la génération Jurassic Park, donc des années 90, bah, sont maintenant devenus grands, enfin voilà, sont capables de dessiner, sont capables de faire des films et puis repensent avec nostalgie à cette époque-là où voilà, il y avait les premiers jouets dinosaures qui arrivaient et sont maintenant adultes et ont envie de faire perdurer ça. Et enfin, maintenant ces gens-là bah, gèrent des magasins, gèrent des lignes de vêtements. Ils se disent, ah ouais, les dinosaures, j'aimais bien quand j'étais jeune, alors voilà, on va faire ça pour les enfants. Et les enfants se disent, ouais, trop cool, des dinosaures. Voilà, je pense que ça marche un petit peu comme ça, tout le monde s'y met et puis voilà, ça devient une mode. C'est plutôt cool. Enfin, moi, je suis assez contente aussi qu'on puisse mettre en avant enfin, les dernières recherches, qu'on puisse mettre en avant enfin, les découvertes, ce que sont les dinosaures, d'apprendre des choses au grand public et puis de s'éloigner un petit peu de certaines visions fantasmées, bah, comme enfin, la franchise Jurassic Park slash World.
J'ai l'impression qu'il y a plein d'infos sur les dinosaures et je pense j'ai l'impression que les gens spéculent encore des choses irréelles.
Ouais, bah, en fait, c'est un peu le problème des gros médias et des gros journaux qui vont nous sortir des infos sensationnelles tout le temps. Bah, la dernière en date, c'est un super tyrannosaure ou un grand prédateur du T-Rex. Donc, voilà, où on a un morceau de mâchoire et on va spéculer pas mal de choses. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup moins sensationnel que ça. Et que, oui, je pense que les journaux, ils voient. Enfin, ils essayent de rendre tout sensationnel, alors que bon, dans la vraie vie, c'est pas forcément ça. Et ouais, on a peut-être besoin de. Enfin, on a quand même des énormes diplodocus, mais non, il faut toujours plus grand avec des dinosaures qui font 30, 60 mètres de long. Enfin, on veut toujours, toujours plus grand, alors que ça, enfin, un diplodocus, c'est quand même assez grand.
C'est grand comment?
Il me semble que c'est 30 mètres. Après, il y a plusieurs diplodocus. C'est ça le problème, c'est qu'il y a. Je vais plus avoir vraiment tous les noms en tête, mais il y a un diplodocus type A, type B, type C, et ils ont tous différentes tailles. Parce qu'on a dû forcément les classer, mais c'est à peu près 30 mètres. C'est plutôt assez grand.
Mais t'as plein de bouquins alors sur le sujet?
Ouais, j'ai pas mal de bouquins, j'ai pas mal enfin, de vidéos que j'ai regardées, de gens que j'ai écoutés, de livres que j'ai lus. Enfin, ouais, voilà. Il y a pas mal de choses. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes en fait, selon le public. Si c'est pour les enfants, on va peut-être jouer un peu plus sur le sensationnel. Si c'est pour un public de spécialistes, bah, c'est complètement incompréhensible. Parce que moi, j'ai pas fait d'études de biologie ni de paléontologie, donc il y a plein de choses que je ne comprends pas. Donc voilà, il y a plein d'outils différents. Pas mal de bouquins chez moi sur les dinosaures. Mais après, j'ai une petite. Je suis pas forcément que pour les livres de spécialistes. J'aime beaucoup les livres pour enfants où il y a des illustrateurs, illustratrices qui ont vraiment bossé sur les images, qui ont beaucoup travaillé les couleurs, qui ont travaillé toute l'ambiance. C'est ce que je préfère plutôt qu'un livre très très précis sur la peau de tel dinosaure, dont une information qui va probablement changer d'ici 10 ans.
Et toi, tu es entourée donc de, tu m'as dit, de paléontologues.
Ouais, alors ça, c'est je fais partie d'une association de vulgarisateurs et vulgarisatrices en paléontologie, donc pas que sur les dinosaures, donc sur tous les animaux disparus françaises, qui s'appelle la Paléosphère. Et il y a dedans des vidéastes, des auteurs, des dessinateurs, des gens qui travaillent là-dessus et qui peuvent répondre à toutes mes questions débiles de type quelles plantes ont trouvé au Crétacé inférieur en Amérique du Sud voilà, des choses dont j'ai besoin pour mon travail. Donc mon travail, c'est principalement de dessiner des dinos pour de la presse, de l'édition. Ça, c'est pour des commandes. Donc il y a souvent un ou une paléontologue qui est associée au projet, qui bah, me fait les recherches pour quel dino on va dessiner, qui va bah, de moins en moins, mais qui au début corrigeait beaucoup les postures que je faisais. Mais en fait, en ayant fait plusieurs projets de ce type, maintenant, j'ai plus trop besoin de savoir à quoi ressemble. Enfin. quelle posture va avoir tel par exemple un stégosaure, parce que je suis habituée maintenant, qu'on m'a déjà corrigé plusieurs fois sur comment étaient placées les plaques, donc maintenant je sais, et puis je vais de plus en plus rapidement en fait.
Et t'as fait un fichier avec tout ce que t'as fait au niveau de chaque dinosaure ou...
Non, c'est bon, je le retiens en fait. Après, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et pour ça, je suis assez active sur Twitter où il y a beaucoup de vulgarisateurs, beaucoup de paléontologues, d'écrivains, de personnes même passionnées qui justement font de la vulgarisation, qui vont décrire certaines espèces, qui vont avoir envie de présenter une espèce, un animal par exemple. Et selon les dernières recherches, donc, je retiens et puis je me le note dans un petit coin de ma tête pour le prochain dessin. Et souvent, vu que c'est illustré, j'essaye d'intégrer ces recherches-là à mes dessins. Dernièrement, là, je pense que c'était pendant le confinement numéro 1, on avait manifestement rien à foutre, et Spinosaur, donc le gros méchant de Jurassic Park 3, il y a eu une dernière découverte qui a décrété que sa queue était différente, il avait une queue comme un T-Rex classique, et il y a une supposition qui a été faite comme quoi il aurait une queue un peu de triton, donc avec une voile, et tous les paléoartistes, donc les gens qui dessinent des animaux disparus selon les dernières recherches, on fait une version de Spinosaur et à partir de ce moment-là, on a eu un Spinosaur version 2020 et il y a eu une avancée dans la représentation. Ça, c'est quelque chose qui est super important. J'essaye de toujours coller aux dernières recherches qui sont des recherches... En fait, par exemple, T-Rex a changé aussi de position parce qu'on a estimé qu'il était peut-être plus gros, plus dodu, donc on l'a un petit peu moins redressé, on le fait avec la queue qui est vraiment horizontale, donc ça, on voit qu'un dessin date de 2020 ou de 2010, en fait, juste en voyant ça, et c'est pas qu'une question de technique graphique, c'est juste, les avancées ont... Enfin, les recherches ont changé, on a découvert d'autres choses, par exemple, les raptors avec des plumes aussi. On a des tendances en ce moment, c'est de faire des raptors tout fluffy, plumeux. Donc c'est plutôt une liberté graphique qu'on prend, mais elles sont intéressantes aussi pour créer un monde, créer un univers, parce qu'il y a les recherches scientifiques, et ensuite, en tant qu'artiste, il y a ce qu'on a envie d'en faire et ce qu'on a envie de décrire comme univers. C'est beaucoup plus rigolo de faire des raptors, moi c'est ce que je préfère faire, avec plein de plumes pour leur donner une apparence un petit peu d'oiseau, pour changer leur plumage, pour leur donner une petite identification, plutôt que des raptors à la Jurassic Park qui sont intéressants pour faire peur, mais qui, je trouve, s'intègre pas forcément bien dans un paysage, dans une ambiance. Moi, je préfère faire des animaux qui communiquent entre eux, qui sont en train de faire des activités d'animaux plutôt que juste coller absolument à la dernière au dernier papier qui va être écrit par un spécialiste qui de toute façon va être décrié par d'autres.
Ce qui est bien avec ton univers, c'est que ils sont comment dire, doux, ils ont l'air gentils, tu vois, ils sont vraiment à l'opposé de ce qu'on voit dans les médias, dans les films qui sont pas réels de toute manière.
Ouais.
Et t'as envie de dire, ouais, ça se trouve, vivre avec des dinosaures à l'époque, ça aurait pu le faire.
Moi, j'aime bien représenter les dinosaures comme si c'était des animaux d'aujourd'hui. J'avais fait je suis en train de faire là en ce moment toute une série d'une meuf qui a un vélociraptor de compagnie et je l'ai vachement identifié à un chien ou à un chat en fait. Et j'essaye d'imaginer ça. Il y a une série qui s'appelle Dinotopia, il me semble que c'est ça, ouais. C'était une série de livres plus une série animée. Et il me semble que c'est dans l'Antiquité, il y a des dinosaures qui sont des animaux de compagnie. Donc pour tirer des chars, on utilise des tricératops, on a le méchant loup, ce serait le T-Rex. Et j'aime bien imaginer qu'en fait, ça reste des animaux, c'est pas que des monstres. Et ils vivaient tous en symbiose pendant des millions d'années.
Et pourquoi t'as choisi les animaux et les dinosaures plutôt que les humains?
Parce que j'aime pas dessiner des humains. En vrai, je suis pas très douée pour dessiner des humains. Ça m'intéresse pas trop, j'éprouve pas trop de plaisir à dessiner des gens. Et en fait, j'ai toujours été très mauvaise en dessin de... Enfin, en anatomie, en dessin de... Pour tout ce qui est croquis, modèle vivant, ça m'intéresse vraiment pas trop. Mais je préfère, dessiner des animaux, imaginer le monde dans lequel ils vivent, parce que je peux dessiner des plantes et... Je pense que comme ça, j'ai pas à dessiner de ville, j'ai pas à faire de perspective, j'ai pas à faire d'anatomie, j'ai pas à faire tous ces trucs-là. Bon, il y a de l'anatomie à respecter pour les animaux aussi. Mais je suis plus à l'aise, en fait, sur le fait de dessiner des animaux plutôt que des humains. Je pense que c'est juste des facilités que j'avais sur les animaux, les couleurs. Et j'ai pas ça sur le dessin de personnages. Ça m'intéresse pas trop de créer des personnages humains pour raconter des histoires avec. Je préfère imaginer des paysages avec des animaux.
Oui.
Voilà, parce que je m'attache beaucoup au travail d'ambiance, au coloré. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est, j'aime qu'avec mes couleurs, on puisse sentir à quel endroit on est, à quel moment de l'année on est, qu'on puisse ressentir la fraîcheur d'un mois de novembre, qu'on puisse ressentir un février glacé. J'aime bien qu'on puisse ressentir la chaleur d'un mois de juillet, d'une fin de journée de juillet. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire dans mes dessins, que j'ai pas trop avec le dessin de personnages. J'aime bien utiliser voilà, les animaux comme un petit support, comme un petit... Enfin, voilà, pour créer tout ça.
Et comment ça t'est venu, en fait, l'envie de dessiner? T'as dessiné depuis petit, t'as jamais lâché?
Ouais, je crois que c'est ça. Bah, comme tous les dessinateurs et dessinatrices ont la même réponse, voilà, c'est on dessinait quand on était petit, et puis voilà, on a pas trop lâché. Je crois qu'il y a eu un moment aussi où j'étais la plus douée en dessin de ma classe, et j'aimais bien être la plus forte dans un truc où j'ai toujours été un peu moyenne en classe. J'ai jamais été en tête de classe. J'étais pas terrible, enfin j'étais complètement nulle en sport, et j'étais pas non plus la plus voilà, la plus douée dans un autre truc. Donc là en dessin j'étais la meilleure, et puis ça me plaisait, et donc je pense que j'ai voulu continuer là-dedans. Et voilà, après bah, j'ai pris des cours de dessin, j'ai commencé à faire des études spécialisées là-dedans au lycée, et puis ensuite en études supérieures. Voilà, ouais, c'est juste bah, du travail. J'ai apprendre toutes les techniques académiques quand j'étais au collège-lycée, et puis ensuite, voilà, continuer à travailler dedans. Mais, ouais.
Quand tu étais au collège, tu t'es dit « je veux faire dans le dessin »
Ouais, je crois que c'était en cinquième. Je me suis dit « ok, bon bah j'ai l'air d'être plutôt douée là-dedans, et en plus ça m'éclate bien, ce que je ressentais pas dans l'apprentissage de la musique ou la pratique d'un sport. Donc je me disais « bah je m'éclate bien là-dedans, donc autant continuer ». Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a pas eu de... Mes parents m'ont pas forcé à faire ça, et c'est juste, bah, c'était assez naturel, et j'avais cette envie de progresser, de dessiner des trucs. Du coup, voilà.
Parce que quand t'as, je pense, au troisième, tu t'es dit, bon, je vais faire quelque chose dans le métier d'illustration ou du dessin, donc j'ai trouvé une formation là-dedans.
Ouais.
Ils t'ont pas dit, ouais, non, illustration...
Ah, mes parents
bah, non, même pas les professeurs, etc.
Bah, en gros, je pense que les profs voyaient bien que c'était en art plastique que je m'éclatais le plus. Les profs sont pas dupes, ils savent, parce que je suis prof aussi. On sait ce que font les élèves. Enfin là, ils me voyaient tous dessiner dans les marges des cahiers. La prof de maths voyait bien que j'étais pas intéressée par ça, donc je pense qu'ils avaient pas trop envie de me pousser dans un truc qui allait pas me plaire. Enfin, faut pas pousser les jeunes dans des trucs qui leur plaisent pas. Et donc j'ai fait des études. Enfin, j'ai fait un bac art appliqué. Donc c'était vraiment beaucoup beaucoup d'heures de dessin, et ça me plaisait beaucoup, du graphisme aussi, du design, de l'histoire de l'art. C'est assez complet quand on veut faire des études. Bon là il y a eu des réformes, genre je suis assez vieille pour que le bac que j'ai passé n'existe plus. Mais ouais, il y a eu des... Enfin, c'est vraiment un bac spécialisé quand on veut travailler dans les métiers du design, design graphique. Et ouais, non, enfin mes parents n'étaient pas trop trop pour, mais ils voyaient bien que ça me plaisait, et que bah finalement maintenant ils sont plutôt contents.
Et aujourd'hui t'es freelance.
Ouais.
Et raconte-moi un peu comment ça se passe. T'as mis 3 ans, tu m'as dit, avant.
Ouais, en gros, quand j'étais au Beaux-Arts, donc moi j'ai fait 3 ans de Beaux-Arts et au Beaux-Arts d'Épinal. Et quand je suis sortie, on m'a dit, si tu travailles dans l'illustration, donc sous-entendu l'édition, tu vas en avoir pour 3 ans de galère, 3 à 5 ans de galère. Et ensuite ça ira. Et ouais, c'est 3 ans de galère financière, et énormément de doutes, et beaucoup de questionnements, enfin d'interrogations, et puis surtout énormément de travail. Donc en fait c'est hyper dur, parce que pendant 3 ans j'ai bossé d'arrache-pied beaucoup plus que de raison. Je bossais les soirs, je bossais je bossais en soirée, je bossais les week-ends, je bossais pendant que j'avais pas de vacances, enfin tout le temps. Et pour très peu de thunes. Et finalement, bah, ça a commencé à payer au bout de 3 ans. Mais ouais, ça a été hyper compliqué au début. Et maintenant, bah, là, ça va mieux. J'ai un petit peu changé. Voilà, on apprend aussi. En fait, c'est normal. C'est parce que quand on sort d'école, on n'est pas prêt à travailler. Enfin, on n'est pas encore vraiment professionnel, parce qu'on a appris à développer un univers, on a appris certaines techniques, mais on n'est pas encore pro. Donc moi, les 3 ans, je pense que j'ai passé, j'étais encore, je passais beaucoup beaucoup de temps sur mes dessins, je doutais énormément, donc voilà, j'avançais pas vite, j'avais encore du mal à trouver mes couleurs, du mal à avoir le bon matériel, à savoir parler aux clients aussi, être professionnel, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je... enfin, des choses qu'on nous apprend pas, tout ce qui est compta aussi, enfin, tous les trucs chiants. Voilà, faut le temps que ça se mette en place, et bah ça on l'apprend sur le tas en faisant, donc c'est normal qu'au début on soit pas payé comme des professionnels qui ont déjà 5-6 ans d'expérience. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, c'était hyper hasardeux, hyper je tâtonnais vraiment, mais finalement bah ça a plutôt bien marché. Je sais pas comment j'ai fait, c'est juste vraiment du hasard, tous les trucs qui se passent c'est que du hasard.
Tu vois que c'est du hasard ou c'est le fruit de beaucoup de travail et de détermination?
Bah je sais pas, parce qu'il y avait des il y a des gens en fait qui m'ont contacté quand j'étais encore en études pour faire des bouquins, pour faire des affiches, pour des prestations graphiques, et je sais pas comment est-ce qu'ils m'ont trouvé. C'était beaucoup de hasard. Pareil, j'avais été contactée par Strasculture pour faire une image pour un événement, enfin que des trucs comme ça hyper hasardeux, de rencontres que j'ai fait, de gens avec qui j'ai parlé, et je pense que oui, il y a ce petit truc de hasard qui peut-être est dû au fait que je sois active sur les réseaux sociaux, que je fasse un travail qui peut peut-être se démarquer, je sais pas.
Quel univers qui parle, Jean?
Ouais, mais je sais pas, parce qu'à l'époque, j'avais un univers très classique d'étudiante qui sortait d'école. Bon, après, je suis sortie de l'école, j'étais dans les majeures de promo aussi, donc j'avais beaucoup bossé à ce moment-là. Peut-être que ça a payé aussi, et puis peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient voir comment ça se... Enfin, en fait, ils m'ont fait confiance alors que j'étais encore étudiante, et c'est cool parce que, voilà, ça a permis que je puisse développer mon trait, mais ouais, à chaque fois que quelqu'un me contacte, qu'un projet arrive, qu'il y a une nouvelle rencontre, je sais pas comment est-ce qu'ils m'ont trouvé, et c'est vraiment juste... Ouais, je me dis, bon, c'est quelque chose de très hasardeux...
Mais t'es pas dit pendant les 3 ans qu'un jour il faudrait des rencontres comme ça pour que ça décolle?
Bah, je sais pas, parce que moi j'ai un peu du mal à faire tout ce travail de prospection, de aller voir des gens, aller dans des soirées, aller faire des vernissages. Je devrais le faire, j'évoluerais beaucoup plus vite si j'allais faire tous les vernissages et que j'étais à l'aise avec ça, mais en fait je déteste. Il faut aller voir des gens, donner la carte de visite. Enfin, j'adore parler de mon travail quand c'est dans des. Entre potes comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à aller vers des gens et dire ouais bonjour, je dessine des dinosaures, si vous avez besoin de moi appelez-moi. Enfin, je fais ça en mode blague, mais en vrai je me trouve insupportable quand je fais ça, donc c'est pour ça que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que si les gens ça les intéresse pas, ils se désabonnent, c'est tout. Mais j'ai voilà ce truc là de prospection, de il faut se montrer, truc de com, quand il faut appeler des journalistes, je déteste, ça me met extrêmement mal à l'aise. Donc peut-être que ouais, j'évoluerais plus vite si j'étais un peu plus sociable et que j'allais voir des gens, mais ça me correspond pas, je fais ça à mon rythme, il y a quand même des gens pour me contacter. Bon, voilà. Ouais, je me mets pas trop de pression sur ce boulot-là, c'est quand il y a un projet et qu'il faut le faire. Ok, dans ce cas, je vais me sortir les doigts et puis aller contacter des journalistes, aller voir des gens, en parler. Mais sinon, pour mon travail à côté, non, je vais pas faire toutes les soirées, tous les vernissages ou des trucs comme ça. J'aime bien être dans mon coin et qu'on vienne pas trop me faire chier.
Mais après 3 ans, là, t'es bookée de toute façon.
Ouais, c'est ça. Bah là, ça fait 5 ans. Alors, j'ai commencé en
Oui.
2017,
Ça fait
2016.
2 ans que ça marche bien.
Ouais, voilà,
Pendant
là
3
ça
ans,
fait
c'est la
2 ans que
galère.
ça marche bien, bah, principalement parce que j'ai augmenté mes tarifs. On va pas se le cacher en fait. J'ai aussi, je me suis rendu compte, j'étais encore en tarif débutant pendant 3 ans, et je me suis dit, bon, je veux augmenter mes tarifs, et les gens ont commencé à suivre, et ça a mieux marché. Il y a le fait que, il y a eu ce fait-là de. En fait, je suis passée en mode un peu vénère, c'est-à-dire que je travaillais beaucoup pour l'édition jeunesse, et on est très mal payé en édition jeunesse. Et en fait, c'était un milieu dans lequel je ne me retrouvais pas parce que j'ai pas d'enfants, j'en côtoie pas. Et je sentais que mon trait allait pas se développer avec ça, et ça me frustrait beaucoup parce que c'était finalement quelque chose qui me correspondait plus. Et donc j'ai arrêté de travailler avec ce secteur-là en refusant gentiment les projets. Et surtout, j'ai beaucoup plus travaillé pour la presse et j'ai augmenté mes tarifs aussi. En ce moment, il y a beaucoup plus d'entreprises qui viennent me voir et j'ai pu augmenter mes tarifs. Surtout, j'ai été beaucoup plus active sur les réseaux sociaux. Donc j'ai gagné une notoriété, un public, des gens qui apprécient ce que je fais. Et je me suis lancée dans la vente de mon travail pour des particuliers. Donc des goodies, des produits dérivés, des t-shirts. Ça fait 2 ans que là, chaque année, je fais une gamme de textiles. J'avais fait des pins, de l'auto-édition. Donc j'avais fait 2 fois des calendriers. Donc des projets que je mène toute seule. Et alors ça, on gagne pas non plus forcément beaucoup plus d'argent parce qu'il y a tout à gérer, toute la com, tout, les impressions, le papier, la quantité textile, faut payer l'imprimeur, enfin voilà, il y a tout ça à gérer, mais moi je trouve ça beaucoup plus satisfaisant parce que c'est mon projet à moi et les gens ils achètent mon truc parce que c'est ça qu'ils veulent et c'est pas, enfin il y a que moi dessus et comme et moi j'aime bien tout gérer comme j'ai envie. Et quand je travaille dans l'édition, bah, y a plein de gens qui doivent gérer plein de choses. Et donc, je ne peux pas choisir la typo, je ne peux pas choisir la taille du livre, je ne peux pas choisir tout ça. Et donc, des fois, j'accepte, je fais juste mes images et puis les gens font ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est pour de la presse, pour de l'édition. Et des fois, j'ai envie de tout faire toute seule et de faire mon projet artistique avec mon envie, avec les trucs idiots que j'ai envie de faire. L'année dernière, je me suis dit, il manque à ma vie des culottes avec une tête de dinosaure imprimée, je me suis dit, très bien, faisons-le. Et là, je peux faire ce projet-là toute seule parce que je trouve des gens qui veulent bien aussi faire ça. Et c'est trop cool. Et là, je suis la seule qui va faire ça. Et c'est moi qui décide voilà, de vendre ça. Et ça, je suis trop, trop contente parce que ça n'arriverait pas. Une marque jamais ferait ça. Et c'est bien dommage.
Oui, parce qu'avant, tu as un cahier des charges, je pense, quand tu fais dans l'illustration
Ouais.
pour les boîtes. Et là, tu dis, c'est mon côté fun
C'est
qui.
ça, ouais. Bon, après, c'est pas non plus le même nombre de pièces vendues parce que si jamais une marque me contacte, je travaille avec des magasins, avec des lignes de vêtements, avec des marques qui ont besoin de dinosaures. Mais là, ils veulent toucher un public large, donc ils disent, bon, on va faire des motifs dinosaures et ils en vendent je sais pas combien de milliers. Par contre, moi, quand je fais ça toute seule, bah, je vais pas en vendre je sais pas combien de milliers parce que je suis toute seule dans mon appart à devoir emballer des centaines de commandes et déjà, ça, c'est beaucoup. Mais j'aime bien que ça reste à petite échelle, parce que les gens qui me commandent, je vois qu'il y a souvent les mêmes prénoms qui reviennent, et puis la personne a mis ah, je te suis sur Twitter, je m'appelle machin, et c'est cool, ou c'est des gens que j'ai déjà croisés à des soirées ou à des événements que j'avais organisés. Alors moi, j'aime pas aller aux événements des autres pour prospecter tout ça, je trouve ça hyper gênant pour moi. J'aime bien y aller, tu vois, pour voir ce qui se passe, mais j'aime pas prospecter, ça me terrifie. Par contre, j'adore organiser des événements avec des ventes, avec ce genre de choses. Bah, j'avais fait une soirée d'inauguration là avec une tatoueuse justement qui dessine des dinosaures elle aussi. On fait une soirée d'inauguration et c'était génial. J'ai adoré faire ça. On avait invité du monde, on avait fait des gâteaux en forme de dinosaures. C'était fantastique. Voilà, ça j'aime beaucoup.
C'était à Strasse?
Ouais, c'était à Strasbourg, c'était en août. J'aimerais bien qu'on en réorganise d'autres. Bah, ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire plus tard, pouvoir organiser plus d'événements comme ça pour pouvoir faire de la vente, pas me privilégier un marché de petits créateurs, bah, comme ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et je trouve ça vraiment super sympa d'organiser un projet de A à Z, voilà, de pouvoir contacter des prestataires pour faire voilà, des gâteaux, pour pouvoir vendre des choses, pour pouvoir mettre en place une boutique, comment ça se passe, pouvoir rencontrer du monde sur un petit temps. Voilà, ça je trouve ça plutôt chouette.
Et comment ça se passe quand tu dessines? Est-ce que des fois t'as pas d'inspiration et tu dois
Bon,
faire autre
je...
chose?
Si je n'ai pas d'inspiration, je dessine pas.
D'accord.
Enfin, en fait, je fais une différence entre le travail de commande, donc là, la presse, l'édition, les marques, les magasins, les entreprises qui me demandent des trucs. Donc là, le truc est écrit, je sais ce que j'ai à dessiner, et si j'y arrive pas, c'est que, bah, ou bien j'ai pas envie de le faire, ou bien je suis stressée, ou bien le brief est pas assez clair, mais c'est mon travail, je dois le faire et je dois le rendre à l'heure. Et ensuite, à côté de ça, mon travail toute seule. Ou par exemple c'est les t-shirts ou ça va être les dino slips ou ça va être les pins, des trucs comme ça. Donc ça, bah, ça vient tout seul et quand ça vient ou des images que je fais pour les réseaux et que je vais faire pour l'auto-édition ou des peintures ou ce genre de choses, bah, s'il n'y a pas d'inspiration, je fais pas, je vais pas me forcer à le faire. Ça, j'ai suffisamment de travail à côté pour pas non plus me forcer à faire des trucs qui vont me rendre mal. Parfois, le travail de commande, justement, il y a de la pression, il y a du stress, il y a du retard, il y a des problèmes. Donc, c'est pas tout le temps, mais c'est aussi une partie du travail. Je veux pas que mon travail personnel soit justement impacté par ça. Donc, ça vient quand ça vient. Et puis, parfois, voilà, je peux me passer toute une semaine à faire que ça parce que j'ai l'inspiration. Mais voilà, là, on va arriver dans Inktober. J'aimerais bien le faire cette année, mais je vais pas non plus me forcer à le faire. Parce que mon travail personnel reste mon travail personnel et j'ai pas envie de trop spéculer dessus non plus.
Et c'est quoi, In October?
Inktober? Inktober, c'est un challenge qui existe depuis, je pense, une bonne dizaine d'années qui se passe sur les réseaux et c'est Inktober. Donc, c'est pendant tout le mois d'octobre, les dessinateurs ont une liste avec un thème à dessiner chaque jour et font un dessin par jour pour les réseaux. C'est énorme à faire. Mais c'est super motivant parce que justement on a un petit challenge chaque jour à faire. Bon, moi je fais pas la liste officielle, je fais un 10 octobre. Donc j'ai créé la liste aussi et puis je fais mes propres, enfin mes dessins selon ce que j'ai envie de faire. Mais il y a une telle, enfin, un tel enthousiasme sur les réseaux de dessinateurs et dessinatrices à ce moment en octobre parce que chacun donne sa petite interprétation, on sait qu'on a des dessins et c'est intéressant parce qu'ensuite on a des originaux qu'on va pouvoir proposer à la vente ou que des gens vont pouvoir acheter. Moi je sais qu'aussi en tant que bah, cliente, les artistes que j'aime beaucoup font Inktober et je suis un petit peu à l'affût parce que j'ai envie d'avoir tel dessin original. Ou, enfin, c'est vraiment hyper motivant je trouve. Et ça doit rester motivant. Ça doit pas rester une contrainte parce que tout le monde fait Inktober et on doit forcément faire. Si on n'en a pas envie, on ne le fait pas. Enfin, ça, gardons ça pour les commandes et ne nous forçons pas à faire des choses qui vont nous dégoûter. Voilà, c'est vraiment pas le but.
Ça prend du temps de faire un dessin par jour pendant un
Ouais.
mois.
Bah, je l'avais fait en 2019, je crois, où vraiment je m'étais forcée à le faire et j'avais pas grand chose à faire en octobre, justement, donc c'était plutôt cool. Et je faisais un dessin presque par jour au feutre, et ouais, ça pouvait me prendre 5-6 heures. Et donc là, vaut mieux pas avoir quelque chose d'autre à côté à faire. Donc ouais, là, je fais une liste un petit peu allégée parce que j'ai quand même du travail à côté, mais c'est compliqué de se garder. Enfin, si on veut faire un dessin très précis, il faut pouvoir se garder 4-5 heures dans une journée de travail, c'est un petit peu compliqué. Mais ça peut être. À la base, Inktober, c'est plus un dessin à l'encre pour se déconnecter des réseaux et des écrans. Donc c'est un petit peu bizarre, parce que justement, on va le poster sur les réseaux après. Voilà, c'est plus un petit dessin rapide. Je sais que c'est un exercice que je demande à mes étudiants aussi, un petit dessin rapide par jour, juste histoire de voir qu'est-ce que tu peux faire en 15 minutes, juste une idée, quelque chose, voilà, tester de nouvelles choses, tester de nouveaux médiums. Moi, je sais que quand j'avais commencé à en faire au feutre, ça m'avait débloqué pas mal de choses par rapport à, enfin, au fait que je bosse normalement toujours en numérique, et c'était chouette, justement, de pouvoir reprendre un petit peu le feutre. Après, voilà, c'est intéressant, c'est un challenge, ça permet d'être visible sur les réseaux sociaux, de tester des choses, et ça doit pas devenir non plus une contrainte et puis nous empêcher de faire notre travail à côté ou juste de nous stresser et de partir en burn-out après.
Donc t'as tu travailles quoi sur Photoshop, non? Et t'as une tablette
Ouais,
graphique?
moi j'ai une tablette graphique et je travaille en numérique sur Photoshop parce que c'est ce qui est le plus adapté à mes clients, vu que je travaille dans la presse, l'édition pour des marques, des entreprises. Bah, souvent ils vont demander un truc, mais il va falloir le grossir ou il faut changer la couleur. C'est impossible à faire ça en traditionnel et ça se prête pas à l'édition en fait. Enfin, ce serait trop cher, trop long, et puis ensuite il faut les scanner, enfin,
Non.
ça n'a pas trop d'intérêt. Je préfère garder la gouache, la peinture, les crayons de couleur pour des boulots originaux, donc personnels.
Oui, sur Instagram.
De quoi?
Tu fais plus à la gouache, à l'aquarelle sur Instagram.
Bah, je fais tout aussi, je suis assez à l'aise avec le numérique aussi, donc j'aime bien travailler en numérique, même pour des boulots personnels, ça dépend du sujet.
Oui, c'est au moins tu vois tout de suite
Ouais.
ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut améliorer.
Bah, je fais pas mal de mix en fait. Je trouve que pour le croquis, je le fais toujours en numérique. Et ensuite, selon le sujet, je le fais ou à la gouache ou au crayon de couleur. Enfin, ça dépend. Quand je faisais des croquis, mes dessins au feutre pour Inktober, il y a 2 ans, je sais que je faisais souvent le croquis sur l'ordinateur. Parce que j'ai pris l'habitude avec mon travail de faire les croquis sur l'ordinateur. Ça peut sembler bizarre pour chacun, mais chacun sa méthode. Hein.
Oui.
Ouais.
Et tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer à fond dans le dessin
Pour
pour faire
devenir
son
illustratrice,
ouais, faire son
illustrateur,
métier?
à connaître les bases académiques. C'est parce que à côté, je suis prof en école d'art dans le supérieur. Et ouais, j'apprends la théorie de la couleur à mes étudiants. On apprend la perspective, on apprend l'anatomie, on apprend tout ça. Parce que c'est hyper important de connaître les bases pour moi. Et il faut se renseigner sur, enfin, apprendre en fait. Comment est-ce qu'on fait techniquement les choses pour ensuite pouvoir les déconstruire? Et sinon, bah voilà ce que je parlais par rapport à la galère financière. Après, c'est parce que moi, c'est particulier. Moi, j'ai décidé de me lancer tout de suite là-dedans. Mais je pense que c'est pas mal de faire ça à mi-temps avec un autre boulot. En fait, ça dépend, ça s'adapte à chacun. Mais enfin, il y a des gens aussi qui arrivent, enfin, qui ne décollent jamais, qui arrivent jamais à en faire leur métier vraiment à plein temps. Bah, c'est pas grave, tu vois, chacun. Faut pas que ça devienne une contrainte et un gros, trop gros gouffre financier. Il y a des gens qui s'en sortent super bien en illustration quand ils se lancent beaucoup plus tard, parce que justement ils ont la maturité, ils ont un regard beaucoup plus adulte sur le monde du travail, ils ont de la thune de côté, ils ont pas tout le stress de quand on a le début de la vingtaine et qu'on a tout de suite envie de tout avoir. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu plus chill. Mais sinon, ouais, connaître les bases techniques, bien se renseigner sur tous les trucs administratifs, parce que c'est chiant et qu'il faut quand même le faire. Et toujours regarder ce qui se fait et ne pas trop s'enfermer dans quelque chose qui... Ça, les choses peuvent marcher un temps et ensuite, souvent, le public peut se lasser. Donc, ne pas hésiter à faire ce qu'on a envie, même si le public va peut-être pas forcément suivre, en fait. Il y a tellement d'artistes que je connais qui restent dans quelque chose juste parce que ça plaît et qui s'épanouissent peut-être même plus. Et d'autres artistes qui changent de sujet, qui changent du tout au tout, qui changent de style graphique parce que ça leur plaît. Enfin, c'est quand même un métier qui est assez versatile. On peut faire vraiment ce qu'on veut, donc pas hésiter à pas rester vraiment pas rester bloqué sur quelque chose. Après, je dis ça, mais on m'a dit que les dinosaures, ça allait jamais marcher, qu'il fallait que je trouve un vrai sujet. Et voilà, ça fait 5 ans que je bosse là-dessus, et peut-être qu'à un moment j'en aurais marre. Et donc c'est con parce que j'ai fait toute ma com autour de ça, autour de dessinatrices de dinosaures. Mais c'est pas grave, hein. Peut-être que je changerai, que je ferai autre chose. Et voilà, l'idée c'est. On fait pas ce métier pour être enfermé dans quelque chose. On a moyen d'évoluer, on a moyen même d'arrêter, de faire autre chose. Là, j'ai eu une cliente qui m'a dit qu'elle avait arrêté son boulot qui était dans les arts graphiques pour voilà, revenir à une profession plus classique. Et voilà, bah, fais ce que tu veux, ma grande. C'est bien, t'as fait ton. Enfin, elle a pu tester un métier moins classique et puis s'éclater là-dedans. Et puis à des moments, on a d'autres besoins.
Ouais, peut-être qu'elle a eu, elle voulait un parcours différent, elle a une vie différente.
C'est ça, ouais. Et puis enfin, en fait, quand on est freelance, on a beaucoup de pression, beaucoup de doutes, beaucoup de. Enfin, c'est épuisant. Au bout d'un moment, on n'est pas là non plus pour. Enfin, il n'y aura pas de médaille à la fin de oh, t'as le plus souffert, t'as passé le plus d'heures sur tes projets. Non, faut. Voilà, tu fais ce que tu veux. Pour ton projet personnel, tu fais ce que tu veux. Après, voilà, il y a toutes les commandes à côté. Donc, ça, voilà, c'est à la demande du client. Mais sinon, non, voilà, je pense qu'il faut pas se. Il y a aussi. On a un but. Moi, je sais que je voulais absolument travailler dans l'illustration jeunesse et je voulais faire de la BD. Je voulais faire. Quelque chose pour dans les romans graphiques. Et finalement, en fait, ça me convient pas du tout. C'est vraiment pas ce qui me plaît. Donc, il y a le but initial et on va forcément dériver, en fait. Et il n'y a pas de honte à pas faire ça. Il n'y a pas de honte non plus à travailler dans le grand public. Moi, je travaille dans le grand public. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que, justement, c'est très enfantin. Ça a pour vocation aussi de plaire au plus grand nombre. Donc, c'est pas adressé forcément qu'à un public de niche. Mais moi j'aime bien en fait parce que bah, les gens se reconnaissent là-dedans et ça me plaît. Il n'y a pas de mal à être grand public, il n'y a pas de mal à plaire à un grand nombre. Mais tout comme il n'y a pas de mal non plus à bosser pour un petit public de spécialistes. Faut pas être dédaigneux de ce que font les autres. Et sur. Ah si, un autre truc, être gentil avec ses clients et avec ses collègues. Parce que c'est des gens qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir nous amener du travail et qui vont pouvoir nous recommander ou non à d'autres clients. Et ça, c'est hyper important, je pense, d'être gentil et de pas être dédaigneux de ce que font les autres.
Il paraît que la gentillesse, c'est un des plus grands critères de réussite.
Tu crois?
Ouais, ce qu'ils disent. Mais après, gentil, genre, t'es aimable avec les gens, t'es
Oui,
pas.
pas se laisser marcher dessus
Voilà.
non plus.
Mais
Ouais. Parce que j'ai
mettre un
trop
peu.
souvent confondu gentillesse et se laisser marcher dessus. Je sais, il y a un truc, quand on est gentil avec les gens, quand on est. Ça fait un petit peu. Ouais, ça fait un petit peu grosse victime de dire ça, mais au bout d'un moment, bah, ça paie. Enfin, vraiment, tu te présentes à tout le monde en souriant, bah, il peut pas t'arriver de merde, c'est pas possible. Je pense que, oui, c'est peut-être un petit peu utopiste, mais quand on est gentil, quand on est positif, bah, ça peut qu'apporter du positif, alors que quand on est grognon, quand on. Parle dans le dos des autres, quand on est un petit peu mesquin, bah tu vas te coucher, tu seras envieux envers les autres et en étant grognon, donc en étant jaloux, donc ça servira à rien.
En fait, c'est être gentil mais lucide.
C'est ça, ouais, et puis globalement, on devrait tous être hyper gentils les uns avec les autres, c'est tout.
Mais c'est marrant parce que je me dis, toi, t'as un univers très coloré, etc.,
Ouais.
doux. Et avant toi, je sais pas si tu connais, Tommy Ungerer. Mais en fait, j'ai fait le podcast de son ancien bras droit.
Ok.
Et ça me fait rire parce que toi, t'as un univers vraiment. chill, doux. Alors que la philosophie de Tommy Ungerer, c'est il faut faire peur aux enfants, il faut faire des trucs vraiment qui envoient, qui éduquent comme ça. Et en fait, ça sera drôle en fait, d'écouter complètement l'avis inverse de...
Ouais.
Non,
bah,
c'est
moi,
pas comme ça
suis...
qu'on éduque forcément les gens.
Ouais. Bah, moi, je suis plutôt à vouloir... En... Ouais, c'est parce que j'ai un chiot, là, et du coup, pensée positive, tout ça, faut valider ce qui est bon et ne pas faire attention à ce qui est mauvais. J'essaye de faire ça aussi avec mes étudiants, j'essaye de complimenter, même dans la vie, tu vois, quand il y a quelque chose qui est bien, faut le dire. Genre, on dit pas assez aux gens quand ça se passe bien, on dit pas... Et je trouve... Enfin, moi, ça me fait plaisir quand les gens montrent de jolies choses, quand les gens disent que ça va bien, quand t'as des compliments, tout ça, plutôt que toujours des reproches, toujours des conseils que t'as pas demandé, des trucs comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est important, mais je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise méthode. Bah, c'est ce que j'essaye de faire et je vois que ça paie. Bah, j'ai une stagiaire à un moment et je sais pas, elle fait des trucs super et j'essaye justement de valoriser ça, d'être dans... Alors, ça prend beaucoup de temps aussi. Mais c'est parce que j'ai pas de compétences d'éducation de voilà comment est-ce qu'il faut sur quel truc négatif il faut appuyer. Moi je sais que si on valorise ce qui est bon et ce qui marche bien, bah les gens s'en souviennent et continuent d'appuyer là-dessus. Et puis encore une fois, voilà, la gentillesse va répandre la gentillesse, c'est ce qui marche bien. Enfin, ça se voit, enfin, quand t'as des serveurs gentils, des serveuses gentilles, des vendeurs et vendeuses gentils, t'as trop envie d'aller vers eux, de discuter, et puis c'est ce qui marche bien. Et je pense que c'est pareil pour les clients et pour le travail, voilà, si t'es gentil, bah, que t'es avenant, que t'es compréhensif, que tu peux justement t'adapter, bah, ça fonctionne bien.
Personne ne veut travailler avec des gens colériques, chiants et ingérables, de toute façon.
Bah ouais, ça c'est... Moi, j'ai du mal à travailler avec des gens qui font trop... qui sont trop négatifs et qui mettent trop d'émotions quand il y a des problèmes ou quand... Enfin, quand il... Il y a toujours des problèmes. Ah, ça, c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est qu'il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est sûr. Tu fais un planning, tu mets toujours du temps en plus parce qu'il y aura toujours des merdes. Et bah, des fois, il y a des problèmes, tu sais pas pourquoi. Bah, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de stresser. Moi, j'ai, bah, pour les collections de vêtements, il y a toujours une merde. Là, on a un retard sur les cabas. Bon, bah voilà, je vais pas non plus aller crier sur l'imprimeur, je vais pas aller crier sur le fournisseur parce que les clients, ils ont un retard. Bon, bah voilà. Il faut être compréhensif de tout et ça va générer beaucoup moins de stress. Encore une fois, pas se laisser marcher dessus non plus, mais ça sert à rien d'être un petit tyran en fait et de vouloir exiger des autres et des autres travailleurs que tout soit toujours dans les temps en fait. Et voilà, il y a des problèmes, il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à prendre, enfin, à prendre sur soi aussi et puis à vraiment laisser couler certains trucs aussi. Et se rappeler que. Ouais, il y a le travail, mais il y a aussi tout ce qui va à côté. Moi, pendant les premières années de travail, bah, je faisais vraiment que ça. Et je suis passée à côté de pas mal de choses. Et pour moi, je trouve que ça sert à rien de se vanter de travailler, je sais pas, 20 heures par jour. Enfin, au bout d'un moment, ça va, on n'est plus étudiant, on n'est pas à faire le concours de la plus grosse nuit blanche. Enfin, c'est... Voilà, le travail n'est pas toute la vie. Et tout ce qui se passe à côté, bah, c'est ce dont on va se souvenir. On se souviendra pas trop, je pense, de ce rush et de cette charrette qu'on a dû faire parce que... le client avait demandé ça à temps, alors qu'en fait on s'en fout. Enfin, c'est juste c'est un magazine qui va pas forcément rester. Alors que bah, tu te souviendras plus de ces moments passés avec tes proches. Il faut arriver en fait à faire la part des choses entre les deux. Donc ouais, c'est ça. Les premières années sont compliquées parce qu'on passe énormément de temps à bosser et qu'on dit non à pas mal de choses. Et ensuite, on apprend à être un petit peu plus chill justement là-dessus, à mieux s'organiser aussi pour mieux respecter les délais et à voilà pouvoir passer un peu plus de temps à côté, qui reste quand même du temps bah, où tu vas te cultiver, où tu vas aller rencontrer du monde, où tu vas... Enfin, c'est pas du temps perdu en fait, c'est le moment où ton cerveau se repose et puis tu vas pouvoir mieux créer en fait.
T'as regretté d'avoir trop travaillé pendant 3 ans?
Non. Enfin, c'est ce qui m'a permis de pouvoir bah, aujourd'hui être un peu plus détendue justement par rapport à ça. Je pense juste que c'est un équilibre à trouver. Moi, c'est parce que je voulais aller très vite aussi. Donc, pendant 3 ans, j'ai limite fait que ça. Et après, c'est allé beaucoup mieux. Il y a des gens qui ont avoir une autre méthode. Il n'y a pas vraiment de conseil universel. Il n'y a pas de technique de il faut faire ça comme
Oui,
ça.
là c'est par rapport à toi et à
Ouais.
ce que tu as vécu.
Moi, je pense que ça m'a convenu de faire ça comme ça. Et de toute façon, voilà, je peux pas revenir non plus dans le passé. Là, je me dis, bon, bah voilà, ça c'est bien passé. Je suis toujours très bienveillante avec la Clémence du passé. Elle a fait ça, elle avait sûrement une bonne raison. Mais
Et
voilà, bah aujourd'hui, je suis très reconnaissante d'avoir fait ça parce que Elle a bien travaillé, elle a appris plein de trucs, elle a fait des erreurs que moi je ne refais plus. Et voilà, on fonctionne tout main dans la main.
T'as pas été trop dure avec toi-même?
Non, je suis jamais dure avec moi-même. Enfin, genre, je me dis que oui, peut-être que j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire avant, mais je vais pas m'en vouloir. Je me flagelle assez pour plein de trucs et je vais pas pouvoir ou j'en veux, je m'en veux assez de pas avoir. Enfin non, je veux pas m'en vouloir en fait pour certaines choses que j'ai faites. Je me dis bah il y avait forcément une raison pour ça. Et puis il y a un truc, une méthode de travail, une méthode de vie en fait que j'ai, c'est je fonctionne toujours avec plein de petites Clémences. Donc il y a la Clémence du passé, la Clémence du présent et la Clémence du futur. Le but de la Clémence du présent, c'est d'aider celle du futur à pas être dans la merde. Donc bah je vais essayer de lui avancer le travail, de pas être trop de lui préparer des trucs. J'essaie toujours de préparer au mieux mon emploi du temps, de voilà, pour que ce soit pas trop compliqué pour elle, parce que je la connais, je sais qu'elle va être débordée, je sais qu'elle va être elle va stresser, et donc je vais lui prévoir un petit rap dans le planning, parce qu'il y a un moment elle va en avoir marre et elle va partir faire autre chose. Et on va pas non plus blâmer la Clémence du passé, parce que bah, peut-être qu'elle avait ses raisons de pas avoir fait ce dossier qui était pourtant urgent à rendre. Voilà, donc j'essaie de fonctionner comme ça, et j'essaie de fonctionner comme ça avec mes proches aussi, genre c'est bon, on va arrêter d'en vouloir et d'être un petit tyran pour parce que il y a une différence entre les gens que t'emploies et les gens que tu qui sont tes associés. Voilà, tu vas pas être tout le temps exiger des trucs des gens. Voilà, il y a pas que le travail dans la vie non plus.
On va passer à une partie un peu plus personnelle.
Ah,
quel est ton plus grand défaut?
Je dois un peu trop tout suranalyser et réfléchir. Bah c'est pour ça je parle trop, c'est parce que ah, si, je me disperse beaucoup trop, voilà. T'as eu une illustration très juste de quel est mon plus gros défaut. Je me disperse trop, ce qui peut aussi être une qualité, parce qu'il y a plein d'idées qui arrivent en même temps, mais je me disperse trop, et mes proches en ont marre, et t'en as eu marre aussi au début, parce que justement, ça part dans tous les sens.
Je suis pareil, mais j'avoue que par rapport à un podcast, faut arriver à avoir les idées claires, ouais. Et c'est compliqué.
Eh ouais, non, mais moi, je pars dans tous les sens. Donc c'est cool quand j'ai des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, parce que quand on doit organiser des choses, il y a plein d'idées qui fusent, et puis on a un beau mouvement de voilà, où on a envie de faire des choses, et c'est super. Par contre, quand c'est des gens qui sont cadrés sur une seule chose, moi je suis insupportable, parce que je vais penser à tous les petits trucs à faire, et puis je vais vraiment partir dans tous les sens. Au final, moi j'arrive à m'en sortir quand je fais mes projets, mais ça dépend des gens en fait avec qui on travaille et du projet. Mais la plupart du temps, j'arrive à faire mes trucs, j'arrive toujours à faire mes trucs.
Oui, parce que sinon, si tu pars sur une idée, après tu la fais pas réellement.
Moi, je dois beaucoup, beaucoup m'organiser, me cadrer, faire des horaires, faire des to-do list, des trucs comme ça, mais j'arrive toujours à faire mes projets. En fait, tous les projets que je prépare, ils sont faits à un moment, ils sont peut-être pas faits au moment où ils devaient être, mais ils sont faits plus tard et ils sont faits mieux.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ton métier?
Je déteste dessiner les ankylosaures. Ils ont vraiment une grosse tête de merde. Alors ça,
tu crois que t'as une carrière la compta, tu vois.
Non, mais bon, bah là, tout le monde va dire vrai. Ouais, je déteste faire la compta, mais bon, tout le monde a déjà dû le dire, c'est chiant, faut des chiffres. Je déteste faire tout comme tout le monde. Je déteste les trucs administratifs. Je déteste quand je dois appeler des gens parce que j'ai pas compris. Je déteste quand je dois courir après mon argent, mais j'ai une super méthode pour ça.
C'est quoi?
Sur les factures, il faut indiquer que c'est payable sous 30 jours. Sinon, bah, y a un texte de loi qui dit que bah, y a des pénalités de retard. Il faut mettre les pénalités de retard assez tôt, assez haut en fait. Alors, par exemple, un petit 30%. Voilà. Et en fait, si tu ne payes pas la facture dans les 30 jours, il y a les pénalités de retard qui s'appliquent. Il faut marquer dans les CGV que les pénalités de retard s'appliquent sans avoir à les demander. Donc moi, ce que je fais quand la facture n'est pas payée, attends, si mes clients ils écoutent ça, ils vont être là genre « Ah d'accord, ok !» C'est que 5 jours avant la date limite, j'envoie un mail ou un message en disant « Oui, bonjour, il me semble que la facture n'a pas été payée, donc je voulais vous prévenir parce que les pénalités vont s'appliquer. Et si c'est une erreur, voilà, vous évitez de vous les faire appliquer. » Mais tout le monde fait ça, toutes les entreprises font ça. Enfin, les banquiers, les assurances, ton loyer, ils vont faire ça. Et dans les 2 heures, j'ai mon virement. Toujours. Voilà.
Je vais me le noter.
Mais vraiment. Non, mais il faut faire ça. Après, voilà, ça fait toujours chier de payer. Voilà, j'ai des sommes à payer pour des trucs. Bah, tu sais que tu dois les payer. Ça sert à rien de garder la thune pendant 30 jours. Donc, paie tout de suite ton truc. C'est insupportable de devoir courir après les clients. Enfin, ça... c'est chiant, mais du coup, voilà, en restant professionnel et en étant gentil, voilà, plutôt que de devoir appliquer les pénalités de retard tout de suite ou de d'être froid, bah là, juste comme ça fait genre... J'ai cru que c'était un oubli. Voilà.
Et... Alors que tu sais que non.
Je sais que non. Mais ça m'énerve quand les gens se foutent de ma gueule aussi. Donc je sais que non, c'est pas ce qu'ils voulaient attendre le dernier moment. Alors que ça va, qu'est-ce que ça va te foutre de garder ta thune 5 jours plus tard?
Sinon, t'auras les pénalités. Tu les as déjà appliquées?
Bah non, parce que ma méthode est efficace. Voilà.
Donc, non, mais après, bon,
s'il y a un autre truc aussi à savoir, bah, il vaut mieux être entouré d'avocats et de bien connaître les textes de loi pour tous ces problèmes-là. Pouvoir avoir un avocat sous la main s'il y a des problèmes, savoir comment ça se passe, les deux mises en demeure, des trucs comme ça. Et en étant très très pro, et même en étant gentil, mais pro, on arrive à avoir tout ce qu'il faut. Si un client veut pas payer, c'est voilà, bah, l'aide de mise en demeure, et puis voilà, courrier d'avocat, tu veux pas payer, bon bah ça ira au procès, et puis c'est pas moi qui en faute. Hein.
Efficace.
Ouais.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager?
Oui. Ça s'est passé il y a pas longtemps. Sur Instagram, je suis des potes aussi. Et genre par exemple quand ils font des stories, bah, je dis que c'est de la merde, ou quand ils disent ouais un événement machin vous viendrez, et moi je dis non parce que t'es con, ou parce que voilà, du coup des relations saines, mais ça me fait rire. Et dernièrement il y a quelqu'un qui avait posté une story et je croyais que c'était un pote, du coup il disait est-ce que voilà je participe à tel événement, venez. Et en fait j'étais en plein soleil, mon écran était de mon téléphone était en plein soleil, je voyais pas très bien, j'avais juste vu le logo, et je lui avais dit non parce que t'es un sale con ou un truc comme ça. Et la personne avait répondu, ah ah, ok, d'accord. Et je fais, tiens, c'est pas la réaction habituelle. Et je fais, oh shit, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout la personne à qui je pensais m'adresser, qui était quelqu'un dont j'estime et que je respecte le travail, et que j'ai juste insulté gratuitement. Donc après, j'ai dû justifier pourquoi j'avais fait ça. J'étais genre, ah, désolée, je pensais que je m'adressais à quelqu'un d'autre, et puis j'ai pas vu, oh là 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 là. Voilà.
Ah oui.
Des petites anecdotes gênantes comme ça, mais j'en fais plein. Je reconnais pas les visages des gens dans la rue aussi, donc plusieurs fois quelqu'un était venu me voir et moi je disais mais qui tu es, et puis vraiment il me faut beaucoup beaucoup de temps pour savoir, donc c'est une foule d'anecdotes géantes qui m'arrivent comme ça, j'en ai plein des comme ça.
Si on se croise dans la rue,
je suis sûre que je te reconnais pas, il me faut beaucoup de temps, il me faut un contexte. Les gens me reconnaissent justement avec mon chien, mais moi je reconnais pas les gens. Une fois une fille que je connais et dont j'estime encore beaucoup le travail était venue voir, et puis vraiment j'étais qui tu es, je m'appelle comme ça. Donne le contexte. Mais si! Ah oui, c'est vrai, tu vas dans.
En plus, je t'aime beaucoup, putain.
Ouais, c'est ça. Toujours hyper gênant. Mais bon, enfin, après, plein de trucs comme ça, je préfère en rire plutôt que. Et on se torture un peu trop. Tu sais, le moment le soir, là où t'arrives pas à dormir, tu sais que t'as un rendez-vous demain matin, il est 2h du matin et tu repenses à ta honte de ce que t'as fait en 5e, là, et t'es là, pourquoi j'ai fait ça? Ça va. Je préfère en rire. Ça fait des anecdotes marrantes.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Bah, je crois que c'était un conseil en étude qui était d'arrêter de vouloir... Ah oui, je crois qu'on m'a dit que j'étais pas une dessinatrice. Et en fait, c'est vrai, je dessine pas, j'aime pas dessiner, je passe pas mon temps à dessiner. Je fais pas des carnets de croquis, je croque pas les gens dans la rue, ça m'amuse pas. Moi, j'aime bien travailler en couleur. Et je pense que c'est qu'on m'a dit que j'étais pas une dessinatrice. Sur le coup, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai vraiment pas aimé, je crois que j'ai dû en pleurer. Mais en fait, c'est pour ça que je suis... illustratrice, enfin je vais pas aimer dessiner au trait, par contre j'adore dessiner avec la couleur et c'est ce qui me passionne, et je crois que c'est ça qui, le fait de ne pas vouloir me forcer à être dans le cliché, dans l'image d'Épinal d'une dessinatrice, mais plutôt de vouloir faire ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce dans quoi je suis douée et ce dans quoi je m'épanouis, plutôt que de vouloir, et c'est ce que j'applique dans tout. S'il y a un truc qui me plaît pas, s'il y a un truc où je sens que je me force ou qui me met mal à l'aise, je fais beaucoup confiance à mon instinct. Si je sens que ça pue, bah j'y vais pas. Je tente un petit peu quand même parce que je suis un petit peu con. Mais en fait, je devrais pas. Et bah si tu sens que ça pue, bah n'y va pas. Et si tu sens que tu te forces, bah fais autrement. Je vois ça avec mes étudiants aussi. Bah quand on se force, bah ça sert à rien. Ça fait quelque chose qui est tout. Ça sent qu'on pousse. Alors que bah même si c'est encore une fois la même chose que ce que t'as fait les derniers mois, bah fais-le, au moins ce sera fait. Voilà.
Est-ce que tu aurais des idées de personnes que je pourrais interviewer?
Bon, tu pourrais interviewer ma tatoueuse, celle qui m'a fait mon triceratops. Je pense qu'elle serait assez ravie parce que là, c'est la personne la plus positive que je connaisse. Je l'ai rencontrée et j'étais... Cette fille, elle est tellement positive. Là, c'est... forcément, c'est mon down, mais elle est toujours souriante. Il y a des problèmes, mais elle s'en fiche, elle y va quand même. Et elle a un gros syndrome de l'imposteur, mais elle est vraiment hyper positive. Ça fait du bien d'être entourée par des gens qui sont très très positifs. Ça, c'est un truc... ouais.
C'est quoi son prénom?
Luna Minoris. Ouais, elle est vraiment très très chouette. que tu pourrais l'interviewer. Et puis elle est à Strasbourg, elle dessine des dinosaures, elle est vraiment très cool. Bah, c'est chez elle que j'ai fait la soirée d'inauguration. Et sinon, en personne qui serait cool. Ah si, il y a que j'ai rencontré aussi via le biais de Luna. Et à Marie Furlan, blog Matcha, qui est pâtissière vegan. Et cette fille, pareil, joie de vivre, en train, elle a une énergie qui est incroyable. Elle fait des projets, elle les mène jusqu'au bout. Et il y a une idée de projet, dans 2 semaines c'est fait. Elle est hyper efficace, cette fille est incroyable. Je la connais pas encore très très bien, j'aimerais bien qu'on devienne un peu plus copine. Mais elle est vraiment hyper, hyper efficace, genre je l'ai vue à l'œuvre et je suis waouh. Elle fait des projets qui sont vraiment incroyables. Et elle fait de la pâtisserie vegan. D'accord. C'est hyper intéressant. J'ai goûté ses gâteaux, ils sont trop bons. Voilà. Donc voilà, 2 personnes que je pourrais interviewer et mettre en valeur aussi, qui sont à Strasbourg, qui sont 2 meufs hyper, hyper chouettes.
En plus, ça me ferait plus de femmes parce que, je sais pas, elles répondent pas présentes ces temps-ci. Il y a plus ces hommes qui ont le courage et l'audace de faire un podcast, alors que c'est pas compliqué.
Voilà, c'est une discussion entre. Ouais, voilà. Après, moi, je sais que je vais pas l'écouter parce que. J'aurais trop d'images, mais voilà, un truc, je sais que je vais m'en vouloir parce que j'aurais dit quelque chose que j'aurais pu exprimer autrement, que j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou peut-être que le message n'est pas bien passé. Donc vu que j'ai pas dit des choses affreuses non plus, je me fais confiance là, mais je sais que je vais pas le réécouter.
Tu le partageras.
Je le partagerai en disant, je l'ai pas écouté, mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, je sais même plus.
Parfait,
voilà.
T'inquiète pas. Merci d'avoir participé.
De rien, merci à toi de m'avoir invité. C'était très cool.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.